comment allez-vous? Allô? T'es où, là? Comment ça, devant la pharmacie? Avec une croix verte, oui, je te remercie. Si t'y étais, je te verrais, parce que j'y suis, moi, devant la pharmacie. Devant la porte? Bah, la porte d'entrée. Ah, ça y est, je te vois, t'es là, t'es en train de téléphoner. Allô? C'est moi. Dis-moi, j'aurais pas laissé mon chargeur chez vous, par hasard? Non, mon chargeur de téléphone, blanc, avec une prise au bout. Qui rentre dans l'ordi, je sais pas, pour moi, il rentre dans le téléphone. Si tu trouves, tu m'appelles, mais pas sur mon téléphone, parce que comme j'ai plus de chargeur, j'ai plus avoir de batterie, appelle-moi chez mon voisin. Attends, je te donne son numéro. Ah, mais je suis pas sûre de savoir faire la manœuvre, aller dans contact pendant qu'on téléphone. J'ai peur que ça raccroche. Si ça raccroche et que j'ai plus de batterie, je pourrais pas te rappeler. De toute façon, je connais pas ton numéro. Attends, tu vas me le dire. Attends. Ah, mais zut, j'ai peur de pas pouvoir aller dans notes pendant qu'on téléphone. J'ai peur que ça raccroche. Allô? Ouais, tu veux bien m'appeler? Oui, là, maintenant. Écoute, j'ai encore perdu mon téléphone. Non, je ne l'ai pas laissé dans la voiture. Je suis allée voir, ni dans mon sac, ni là-haut, ni dans aucune poche. Pff, tu sais, j'en ai marre hein, de chercher ce téléphone. Il faudrait trouver un système. Allez, vas-y, appelle-moi. Attends, je ferme la radio, comme ça je t'entendrai mieux. Dépêche-toi, hein, parce que je veux pas rater les petits bateaux.
Bonjour, je m'appelle Jeanne, j'ai 11 ans et je voudrais savoir grâce à quoi les smartphones sont si intelligents. Merci.
C'est vrai, ma chère Jeanne, qu'ils sont impressionnants. Michel Baudouin Lafont, vous êtes professeur d'informatique à l'Université de Paris-Sud, où Jeanne ira peut-être un jour. Elle n'a que 11 ans. Pourquoi les smartphones sont si intelligents, demande-t-elle.
Alors, qu'est-ce qui te fait dire qu'ils sont intelligents, ces smartphones, ma chère Jeanne? Qu'est-ce que c'est l'intelligence? Peut-être parce que ton smartphone, il sait beaucoup de choses. Mais savoir beaucoup de choses, ça veut dire qu'il est capable d'aller chercher dans des banques de données de l'information qui a été mise en général par des hommes et des femmes. Et en fait, ce qui nous donne l'impression que le smartphone, téléphone intelligent, est intelligent, c'est en fait qu'il est très bête. Alors, l'ordinateur est d'une bêtise incroyable. Il ne sait faire que 3 ou 4 choses. Il sait calculer, ajouter, soustraire. Il sait comparer. Il sait enregistrer de l'information et aller la chercher. Donc, c'est des choses qu'on apprend au cours préparatoire. Mais en fait, il se fait ça très très vite. Il peut faire des milliards d'opérations par seconde. Donc si par exemple je cherche la traduction d'un mot dans un dictionnaire, moi ça me prend beaucoup de temps, il faut tourner les pages, etc. L'ordinateur va le faire en 1/1 de seconde. Donc j'aurai l'impression qu'il est intelligent, qu'il sait déjà tout ça. Alors parce qu'il peut faire beaucoup de calculs très vite, peut aussi donner l'impression de l'intelligence, par exemple lorsqu'on utilise un GPS, et que le GPS nous dit « Ah bah pour aller à telle adresse, il faut passer par-ci et par-là ». L'ordinateur, il n'est pas particulièrement intelligent pour faire ça. Il regarde tous les chemins possibles, et puis il regarde celui qui est soit le plus court, soit qui va le plus vite. Mais c'est à nouveau parce qu'il peut faire tous ses calculs très vite et faire ce choix très vite qu'on a l'impression qu'il a réponse à tout.
Quantité, rapidité, mais pas créativité.
Pas créativité, alors évidemment on parle beaucoup actuellement de l'intelligence artificielle. On voit des ordinateurs qui sont capables de traduire, de reconnaître des personnes dans des images, etc. Mais là aussi, c'est en fait des calculs qui sont faits très rapidement, à partir de ce que l'on appelle des algorithmes, des recettes de calcul, qui, eux, ont été inventés par des gens très intelligents, qui sont les chercheurs en informatique, les chercheurs en intelligence artificielle. C'est eux qui savent, en fait, exploiter cette bêtise et cette vitesse des ordinateurs pour donner cette illusion de l'intelligence.
Voilà, vous le savez peut-être déjà ou vous l'avez deviné, Les Petits Bateaux est une émission où des savants répondent aux questions des enfants. Ce soir, vous avez demandé pourquoi la petite boule à la pétanque s'appelle le cochonnet, et si pour faire un film sur les animaux sauvages, il faut forcément se cacher, ou encore si une tornade peut aller plus vite qu'une voiture. Les Jeux Olympiques sont repartis avec les Jeux Parasolympiques.
Bonjour, je m'appelle Jeanne, j'ai 8 ans. Et je souhaiterais savoir comment les Jeux Olympiques ont été inventés. Merci.
Je souhaiterais savoir comment les Jeux Olympiques ont été inventés. Fabien Archambault, vous êtes historien.
Ben c'est pas facile à savoir parce qu'ils ont été inventés 2 fois. La première fois par les Grecs dans l'Antiquité, apparemment au 7e siècle avant Jésus-Christ. Donc on a une date qui est 776 avant notre ère, mais on n'est pas sûr que ce soit une vraie date. Et ils ont été réinventés une deuxième fois par le baron Pierre de Coubertin en 1894 à la Sorbonne, un congrès pour le rétablissement des Jeux Olympiques. Alors, on sait bien pour la deuxième fois, on sait quel jour, quel était le projet. Pour la première fois, comment? C'est lié à l'apparition des cités grecques. qui organise des concours, qu'on appelle des concours panhelléniques, c'est-à-dire qui regroupent tous les Grecs, qui sont organisés à Delphes, à Corinthe, à Némée et donc à Olympie.
Pan, ça veut dire tout.
De tous les Grecs.
Panorama, ça veut dire qu'on voit tout.
Voilà, c'est D'accord. ça. Et le concours le plus prestigieux, donc qui est un concours sportif, est celui qui a lieu à Olympie tous les 4 ans, qui donne lieu à une trêve olympique, qui permet à tous les Grecs, c'est-à-dire les spectateurs et les athlètes, de faire le voyage jusqu'à Olympie. Et les Jeux durent 5 jours.
Mais dites donc, Fabien Archambault, je trouve que vous en savez pas mal quand même, pour une époque aussi reculée.
Alors,
sur ces jeux.
Ben, c'est les historiens de l'Antiquité, c'est que c'était tellement prestigieux qu'il y a des sources qui ont été produites. Et ces sources, ben, c'est par exemple les palmarès. C'est-à-dire qu'on sait, jusqu'à la fin des Jeux Olympiques de l'Antiquité, c'est-à-dire au 4e siècle de notre ère, qui ont été les vainqueurs.
Ah ouais.
Et donc, alors, il y avait plusieurs épreuves. Hein. Il y avait la course de chars, il y avait la course de chevaux, il y avait la lutte, le pancras, la boxe, en fait. Il y avait le lancer du disque, le lancer du javelot, etc. Et donc, il y a des héros, il y a des stars, déjà, dans l'Antiquité, qui, en gros, quand on avait son palmarès, donc on pouvait faire le grand chelem, c'est-à-dire gagner les 4 concours sportifs des Jeux panhelléniques. Mais la victoire la plus prestigieuse, c'était celle d'Olympie.
Est-ce que vous savez ce qui lui passait par la tête à Pierre de Coubertin pour avoir envie de remettre ses jeux au goût du jour ?
C'est un libéral, politiquement, c'est-à-dire que c'est ce groupe politique, ce mouvement politique à la fin du 19e en France regarde vers l'Angleterre. Et l'Angleterre, c'est la société qui a produit les sports modernes tout au long du 19e siècle. Donc voilà, il y a déjà ça, c'est-à-dire que le modèle culturel britannique, il veut l'acclimater en France. C'est plutôt un pacifiste. Il y a l'idée que pour voilà, il a été marqué par la défaite de la France face à la Prusse en 1870, il y a l'idée que pour que l'Europe soit unie, pour qu'elle ne soit plus en guerre, il faut que les élites de tous ces pays se rencontrent, et notamment à travers cette pratique qui se répand en Europe à ce moment-là, qu'est le sport. Donc c'est une vision très aristocratique, hein. C'est en gros des gentlemen qui ont le temps de faire du sport, donc ils font pas ça pour l'argent, donc c'est des amateurs.
So chic, so British.
Voilà, et pas de femmes.
C'est
que ça les concerne pas. Hein. C'est seulement en 1928 qu'il y aura des concours féminins dans les Jeux Olympiques modernes.
Vous nous rappelez, Fabien Archambault, la date des premiers Jeux Olympiques
Alors c'est en 1896, à Athènes, parce que c'est
symbolique.
Ces fils de bonne famille, qu'est-ce qu'ils apprennent à l'école? Enfin, les disciplines reines, c'est les disciplines classiques, le latin et le grec. Et donc il y a cette admiration pour l'Antiquité, d'autant qu'en 1852, des archéologues allemands ont découvert Olympie, et c'est eux qui ont mis au jour toutes les listes des vainqueurs, etc. Et donc, on se rend compte, à la fin du 19e siècle, de ce qu'ont été les Jeux Olympiques dans l'Antiquité.
Fabien Archambault, vous piquez ma curiosité. Les archéologues, quand ils ont donc mis au jour cette liste des vainqueurs, ils les ont trouvés où ?
Ah ben, c'était gravé dans la terre, en fait. Quand on a fait les fouilles, on a mis au jour tout le sanctuaire, parce que c'est une fête religieuse, les Jeux Olympiques dans l'Antiquité, donc c'est le sanctuaire qui est dédié à Zeus et à Héra, son épouse. Et donc, ils étaient, avec le temps, ils étaient enfouis sous la terre, et donc, petit à petit, on a découvert, près des temps, la liste de tous les vainqueurs.
Vous trouverez les références des ouvrages de Fabien Archambault sur le site des Petits Bateaux.
Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Retiens la nuit pour nos cœurs dans sa course vagabonde. Serre-moi fort contre ton corps. Il faut qu'à l'heure des folies, le grand amour raye le jour. Elle va s'oublier la vie. Retiens la nuit. Avec toi, elle paraît si belle. Retiens la nuit. Mon amour, qu'elle devienne éternelle. À l'infini,
retiens la nuit. Ne me demande pas d'où me vient ma tristesse. Ne me demande rien, tu ne comprendrais pas. En découvrant l'amour, je prône la détresse. En croyant tout bonheur, la peur entre en mes joies. Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Retiens la nuit pour nos cœurs dans sa course vagabonde. Serre-moi fort contre ton corps. Il faut qu'à l'heure des folies, le grand amour raye le jour et ne fasse oublier la vie. Retiens la nuit, avec toi elle paraît si belle. Oh, retiens la nuit, mon amour, qu'elle devienne éternelle. Je t'en supplie à l'infini, retiens la nuit. Oh, je t'en supplie à l'infini, retiens la nuit.
Oui, vous êtes bien sur France Inter, c'était Johnny Hallyday. Qui a écrit les paroles de Retiens la nuit ? Charles Aznavour, Pascal Obispo ou Eric Orsenna ? Un indice, cette chanson date de 1962. Charles Aznavour, bravo.
Les petits bateaux sur France Inter.
La semaine dernière, vous avez peut-être assisté à la cérémonie des Césars. Vous savez donc que le César du meilleur documentaire a été donné, a été mérité au documentaire de La Panthère des Neiges.
Bonjour, je m'appelle Benjamin et j'aimerais savoir si pour faire un documentaire sur des animaux sauvages, il faut forcément se cacher. Merci de votre réponse.
Bonsoir Benjamin. Marie Amiguet, vous en faites, vous, des documentaires sur les animaux sauvages. Votre dernier, c'est La Panthère des Neiges que vous avez co-réalisé avec Vincent Minier. Benjamin demande si pour faire un documentaire sur les animaux sauvages, il faut forcément se cacher.
Alors, très bonne question Benjamin. Non. Déjà, ça dépend des animaux que tu veux filmer. Certains ont peur de l'homme, d'autres n'en ont pas peur. Certains sont dangereux, peut-être, à approcher. Donc, disons qu'ils sont gros, ils pourraient te marcher dessus. D'autres sont minuscules, microscopiques. Alors, vraiment, il y a quelque part une réponse pour chaque espèce. Un animal qui a très peur de l'homme, c'est le loup, par exemple.
Ah tiens, et l'homme a peur du loup.
Et oui, c'est pour ça que je tiens à le dire. Et pourquoi on se cache pour filmer des animaux sauvages ? Alors on va parler des mammifères, comme le loup. Parce qu'en fait, ce sont les premiers, eux, à avoir peur de nous. Parce qu'on est un grand prédateur. On les tue, on les chasse, on les effraie. Et donc, quand ils nous voient, ils se carapatent. Moi, j'ai mis 2 ans et demi à voir la queue d'un premier loup. Hein.
Ah oui.
Alors pourquoi on se cache aussi ? C'est pour pas perturber, pour pas déranger. Il y a certaines espèces qui sont plus sensibles que d'autres, notamment les oiseaux qui nichent, par exemple les grands tétras dans les Vosges. Et ces oiseaux-là, si on les dérange en voulant faire une photo, en voulant les filmer, on peut vraiment perturber soit leur nichée, soit carrément les faire mourir, parce que si on les dérange en plein hiver, alors qu'ils sont en train de survivre sur leurs réserves et qu'on les fait s'envoler, ils peuvent griller tout d'un coup toutes leurs réserves et mourir. C'est pour ça que c'est très important de connaître encore une fois la biologie de l'animal et puis de l'approcher avec respect, en sachant pourquoi il aurait des raisons de se trouver dans ce milieu, qu'est-ce qu'il y fait et comment on fait pour ne pas le déranger. Ça, c'est important. Pourquoi on se cache aussi, ce serait pour pas modifier les comportements de l'animal, parce qu'un animal qui voit un homme, il est dérangé. En général, on n'en voit que les fesses. Hein.
Ah oui,
il s'en va en courant.
Il est perturbé, quoi, en fait. Chaque visite de l'humain le perturbe.
Exactement. Et puis, alors il y a des animaux comme le blaireau et le castor qui ont un excellent odorat, qui ne voient pas grand-chose. Ce qui veut dire que si on est placé à bon vent et qu'on arrive discrètement, aux bonnes heures, on peut se rapprocher très près de ces animaux-là, ils ne nous verront pas. Mais si le vent tourne, ils vont décarpir tout de suite.
Et pour l'odeur, donc pas se mettre sous le vent pour pas que l'odeur soit transportée. Et vous pourriez pas y aller à cheval, par exemple, pour que l'odeur du cheval camoufle la vôtre ?
Ça, c'est une très bonne remarque et on utilise même des astuces comme ça. Alors, c'est vrai qu'à cheval, quand vous vous promenez à cheval, vous voyez beaucoup plus d'animaux que si vous vous promenez à pied, parce que les biches, les chevreuils et les sangliers n'ont pas peur des chevaux. Mais bon, pour filmer, c'est compliqué.
C'est juste.
À cheval, c'est pas facile. Par contre, c'est vrai qu'on utilise des astuces. Par exemple, on met nos vêtements dans une étable ou avec les affaires du cheval, si on a un cheval. On fait en sorte que nos vêtements sentent plutôt l'animal domestique que l'homme. Il faut éviter de mettre des shampoings et des savons qui sentent fort. Il faut, l'idéal, c'est de pas, voilà, c'est de camoufler son odeur un maximum. Ça, c'est vraiment plutôt pour les animaux comme les mammifères qui ont un odorat très, très fin. Après, les oiseaux, c'est autre chose. Les oiseaux, ils n'ont pas trop d'odorat, mais par contre, ils vous voient du ciel. Donc, à ce moment-là, il faut utiliser des cachettes où on est aussi caché par le dessus.
Ah oui.
Voilà.
Pas se mettre derrière un buisson, ouais. Faut se mettre dessous.
C'est ça. Par exemple, le faucon pèlerin, qui est un rapace qui vit en France, qui niche en France, lui, il est très, très sensible au dérangement. Et quand on va le filmer au moment où il est assez petit, il faut arriver dans la cachette à la nuit et il faut en repartir à la nuit. Et dans cette cachette, pendant 12-13 heures, on ne bouge absolument plus.
Il ne faut pas avoir envie de faire pipi, il ne faut pas avoir envie de manger un sandwich.
Ouais, ben c'est la vie à l'affût, mais c'est intéressant. On apprend à faire tout en silence, qui est pas forcément le dans nos habitudes d'humain, en fait, finalement. Ouais.
Marie Amiguet a coécrit et co-réalisé avec Vincent Munier le documentaire La Panthère des Neiges, qui a donc obtenu le César du meilleur documentaire 2022. Vous écoutez Les Petits Bateaux, donc vous connaissez, si vous les avez déjà écoutés Les Petits Bateaux, vous connaissez Emmanuel Beaucry, ingénieur, météorologiste, directeur de l'unité média de Météo France.
C'est bien, j'ai 5 ans. Je voudrais savoir si les tornades, elles peuvent rouler plus vite qu'une voiture.
Est-ce qu'une tornade peut rouler plus vite qu'une voiture, Emmanuel Beaucry ?
Alors d'abord, rappelons un peu ce que c'est qu'une tornade. C'est un gros tourbillon qui se produit sous un cumulonimbus, le nuage d'orage très violent. En France, on en a très peu, on en a une vingtaine, une cinquantaine par an. Ça a des vents plus ou moins violents, ça dépend de leur force. Il y a ce qu'on appelle les F0, c'est les toutes petites tornades qui nous donnent du 60 à 100 km/h, à des très très grosses comme les F5, F6 qui sont plus de 350 km/h. C'est très violent. Alors, en général, ça dure 5 à 10 minutes. Ça va se déplacer sur 2, 3, 4 centaines de mètres.
Mais donc, ça se déplace, ça tourne sur elle-même. C'est une toupie. Toupie qui avance.
C'est une toupie de vent qui avance doucement. Alors, ça avance à peu près de l'ordre de 50 km/h. Il y en a qui vont jusqu'à 100 km/h. Donc, ça va à peu près à la vitesse d'une voiture. Par contre, c'est pas tellement sa vitesse de déplacement qui est importante.
C'est
la vitesse de vent. Ah. On enregistre dans les plus fortes des vents de 300-350 km/h. Et ça détruit tout. Ah. Donc, une tornade, quand on la voit au loin, il faut pas chercher à essayer d'aller plus vite qu'elle pour se sauver. Vaut mieux se mettre à l'abri. Donc, se mettre à l'abri, c'est se mettre dans un bâtiment résistant. Si possible, plutôt une cave. C'est ce qu'il y a de mieux.
D'accord. Parce que c'est vrai, d'accord, je comprends. Elle va moins vite que la voiture, mais son vent est fort.
Le vent est très violent. Et là où elle passe... Alors, la particularité, c'est qu'avançant à peu près à 50 km/h, elle va faire une traînée au sol de l'ordre de quelques centaines de mètres. Alors, il y en a certaines qui ont fait plusieurs kilomètres, mais en général, c'est quelques centaines de mètres. Et il n'est pas possible de prévoir si elle va aller tout droit, elle va aller en biais, elle va faire un demi-tour, revenir sur elle-même. On a vu toutes les tornades faire des trucs bizarroïdes. Il n'y en a pas une qui sont parfaites. On ne peut pas savoir à l'avance vers où elle va aller. La seule chose qu'on puisse dire, c'est que dès qu'on commence à la voir, il faut se mettre à l'abri. Ça, c'est nécessaire. Alors, je rassure... En France, on n'en a pas beaucoup et en général, ce sont des petites tornades. Les grosses tornades qu'on voit à la télévision ou sur Internet, ce sont les tornades aux États-Unis.
Dans les pays chauds ?
Non, c'est... Alors les États-Unis ont la particularité, ils ont une géographie particulière qui favorise les tornades. Ce qui est relativement simple, vous avez les vents qui arrivent de l'ouest, qui passent les rocheuses, donc qui vont monter, qui vont faire des vents secs. Vous avez du golfe du Mexique, de l'air très chaud et très humide qui va arriver. Donc air très chaud en basse couche, air sec en milieu de l'atmosphère, plus une configuration... Tout ça, c'est un mélange détonnant qui permet la formation et la vie des tornades aux États-Unis. Donc, c'est ce qu'on appelle la Tornado Alley. C'est une région où il y a 4 ou 5 États qui souffrent énormément des tornades.
Oh. Olho pro cristalino corcovado e em silêncio grita bababá. Tudo esquisito, tudo muito errado, mas a gente chega lá. Tem muito atrito, treta, tem no ama, mas tem sertanejo, preto, pagodão. Ana Vitória, doce, beijo, donça, maravilha, Mendonça, afinação. Vai chegando que a gente vai chegar. Vê se rola, se tudo vai rolar. Só que sem samba não dá, sem samba não dá. Sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba.
Sem samba não dá, sem samba não dá. Sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba.
Sem samba nejo, apagou brejo, tem ferrugem, glória, groove, Maiara e Maraíza. E ou
sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba.
Jonga com Rogério, tem Lúcia e Cabelinho, tem Paca, Chuta, Bruce, tem gente pra chuchu. Tem do David, Gabriel, Borel, Gabriel, Borel, Gabriel, Borel. Olho pro cristalino corcovado e em silêncio grita e bababá. Tudo esquisito, tudo muito errado, mas a gente chega lá. Tem muito atrito, treta, tem moamba, mas tem sertanejo, trap, pagodão. Ana Vitória, doce, beijo, donça, maravilha, Mendonça, afinação. Vai chegando que a gente vai chegar. Vê se rola, se tudo vai rolar. Só que sem samba não dá, sem samba não dá. Sem samba não dá, sem samba não dá. Tem Bacaxu do Bruno, tem gente pra chuchu. Tem do David, Gabriel do Borel, Gabriel do Borel, Gabriel do Borel.
Dernier album du chanteur brésilien cultissime Gaetano Veloso qui va avoir 80 ans. Il a un petit peu passé l'âge de poser des questions aux petits bateaux parce que les petits bateaux, ce sont des enfants qui posent des questions et des spécialistes qui répondent. Les enfants posent des questions dans tous les domaines.
Bonjour, je m'appelle Pauline, j'ai 11 ans et je voudrais savoir pourquoi en pétanque, on appelle la petite boule le cochonnet. Merci et au revoir.
Bonsoir Pauline, c'est Jeannot, dite Jeannette Boulista Sénas dans les Bouches-du-Rhône, autrice de La petite histoire de la pétanque, éditée aux presses bretonnes, qui te répond.
Bonjour Pauline, voilà, je vais répondre à ta question. Le cochonnet s'est employé surtout par les Parisiens pour désigner le but. Le bouchon, le but, le petit, ou à Marseille, même dans les quartiers nord, on appelle aussi le gari, ce qui en provençal veut dire petit. Le bouchon est en bois d'une dimension de 25 à 35 mm. Jusqu'en 1910, le jeu provençal ou langue était le jeu de boules traditionnel. Jusqu'au jour où Jules Lenoir, surnom donné à un joueur de langue, cloué sur sa chaise longue par des rhumatismes et souffrant horriblement de ne pas pouvoir jouer, fut pris en pitié par son ami Ernest Pitiot. Ernest Pitiot était le propriétaire du bar Le Béraud à La Ciotat. Or, il se trouve que son ami Ernest Pitiot, pour faire plaisir à Jules Lenoir, lui dit « Écoute, nous allons faire une partie tous les deux. Tu peux pas bouger, moi je ne bougerai pas non plus. Je resterai les pieds tanqués. Et nous lancerons les boules à 2 ou 3 mètres. » Le jeu à pétanque était né. Maintenant, la pétanque se joue de 6 à 10 mètres.
Ah, d'accord.
La Fédération française de pétanque et jeux provençal est née en 1945. Par contre, je vais vous donner une petite anecdote, là.
Oui.
Quelque chose d'extrêmement rare que j'ai appris tout récemment. En 1959, deux joueurs ont fait un pari et un a dit à l'autre, si je te gagne, pendant un an, tu m'appelleras maître. Cette idée a été soumise à la fédération et ils décidèrent de faire un concours pour désigner le maître bouliste. 1480 joueurs se présentèrent. Il y a eu un marathon épique qui dura 35 jours. Et les finalistes, ce qui est amusant, étaient deux cousins de Château-Renard de Provence. Et le finaliste qui devint maître bouliste s'appela Éric Bourdin. Voilà.
Et vous étiez championne, vous, de pétanque, Madame No?
Oui, j'ai été championne. J'ai joué avec tous les plus grands de ma génération.
Ouais.
Je dois dire que, de par ma famille, parce que papa, maman étaient aussi... Papa était champion de France, ah, finaliste au championnat du monde. Maman était une des meilleures joueuses de son époque aussi. Il se trouve que c'était amusant, parce qu'à l'époque, tous les plus grands joueurs avaient des surnoms. Alors, on avait Petit Fernand, on avait Pétou... le Bajard, le Japonais, ah oui. Vous voyez.
Bon, vous. Et vous, savez... c'était quoi votre petit surnom?
Ah, moi, je n'avais pas de surnom. Moi, j'étais Jeannette.
Ah oui.
Voilà.
Oh, bah, c'est joli.
Je jouais avec Jacques le Gitan, qui était un des plus forts de sa génération. Je jouais aussi avec de très grands joueurs.
Ah, les femmes jouent avec les hommes à la pétanque,
c'est ah oui, les femmes font des concours mixtes. Alors, ou par deux ou par trois. Alors, ou deux hommes et une dame, et un homme et une dame, ce qui est beaucoup plus difficile, ah oui, mais beaucoup plus beau.
Et voilà l'explication, merci beaucoup. Vous savez qu'après-demain, nous serons le 8 mars. Et comme vous le savez également, le 8 mars est le jour de la femme. Pour cette occasion, j'aimerais vous parler dans les petits bateaux de cette nouvelle biographie de George Sand. Elle s'adresse aux jeunes et nous raconte la jeunesse de l'écrivaine. Du moment où elle revient de Madrid, nous sommes en 1808, elle a 4 ans, elle s'appelle Aurore. Au moment où elle commence sa carrière et choisit alors le pseudonyme de George Sand. Son papa, officier de l'armée napoléonienne, était l'aide de camp de Joachim Murat. Il décide de rentrer à Nohant, chez sa mère à lui, accompagné de son épouse, Sophie, de la jeune Aurore et de son petit frère Louis, encore bébé et bien malade. Le bébé meurt, puis le père, Maurice, meurt à son tour d'une chute de cheval. Sophie, la maman, ne s'entend pas avec sa belle-mère. Tout les oppose. Milieu social, caractère, croyance. Elle se dispute sans cesse et la petite Aurore est au milieu. Excédée, Sophie quitte Nohant pour Paris. Aurore reste seule avec sa grand-mère. Ce n'est pas drôle tous les jours. Aurore a pour elle la nature, les voisins, le monde invisible qu'elle perçoit ou imagine, comme vous voulez, mais en tout cas qui lui tient compagnie. Elle passera 2 ans dans un pensionnat religieux à Paris à la fin de l'adolescence et malgré quelques duretés, s'y trouvera bien. Puis sa grand-mère décide de la faire revenir fissa à Nohant quand Aurore annonce qu'elle aimerait rentrer dans les ordres. Aurore, qui n'est pas encore George, a 16 ans. George Sand de Séverine Vidal et c'est édité chez Rajo. Podcaster ces petits bateaux, réécoutez-les par franceinter.fr. Marjorie Devouc ou Stéphane Combe, Mathias Alléon, Jean-Baptiste Audibert, Noël Bréham, nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à 19h30. À suivre, Jérôme Gersin avec Un masque et la plume consacré ce soir au cinéma.